à trouver, si vous voulez bien, nous allons, je pense, voir ça sur votre écran également, mais trouver 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, et nous allons lire les 9 premiers versets, les 9 premiers versets de 2 Timothée chapitre 3. Je vais lire, et puis on va prier, et puis nous allons nous mettre pour comprendre ce que le Seigneur a nous dit. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules chargées de péché, entraînés par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Alors je vous invite, chers amis, à la prière. Oui, Seigneur, plus tard dans cet épître de 2 Timothée, tu nous dis que toute écriture est inspirée par toi, est utile donc pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Que tu sois à l'œuvre donc parmi nous pour que cela soit le cas, là où on se trouve, dans nos circonstances, à nous, que tu nous enseignes, que tu nous convainques, que tu nous redresses, que tu nous éduques dans la justice. Et tout cela, Seigneur, pour que nous soyons ceux et celles qui exercent le ministère au sein de nos églises, que nous soyons aptes et propres à toute œuvre bonne. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. J'espère, chers amis, que vous vous réjouissez de voir un peu de soleil ce week-end-ci. Ça change, n'est-ce pas? Parce que le mois de mai n'a pas été fameux en ce début de déconfinement, en quelque sorte. Je sais qu'il y a 15 jours, quand on a démarré à Don Bosco, il faisait froid, il pleuvait. On a eu deux personnes, Joël et Rita, qui ont pris froid et qui était au lit suite à cela pour un jour ou deux, je pense. Plusieurs avaient besoin d'une couverture. Si je consulte l'application de l'Institut météorologique de Royal Météorologie, IRM, sur mon téléphone, il confirme qu'il y a eu apparemment un nombre exceptionnellement bas de jours de printemps dans ce printemps-ci. Et un jour de printemps, apparemment, c'est lorsque la température maximale atteint 20 degrés ou plus. Ben, ce printemps pourrait terminer apparemment avec le plus faible nombre de jours de printemps depuis 1991, contrairement à l'année dernière où il y a eu le plus grand nombre de jours de printemps depuis le début des observations. Donc, je sais maintenant de cette métaphore de la météo pour aborder avec vous cette section suivante de l'épître de 2 Timothée. L'épître écrite par l'apôtre Paul, lettre avec but d'équiper Timothée dans le ministère. Parce que Timothée a été envoyé à Éphèse où le ministère n'a pas été facile. Mais donc, le but de cette épître était également pour nous préparer, nous tous, à cette période après l'apôtre Paul. cette période où Paul ne sera pas en place, comment nous allons faire dans le ministère? Alors nous l'avons déjà évoqué, que le ministère est un appel surtout à la fidélité, au message qui a été d'abord confié par Dieu à Paul, et qu'une telle fidélité est coûteuse, mais que Timothée ne doit pas hésiter à tenir ferme, malgré la présence des faux docteurs au sein de l'Église, ceux qui cherchent à se servir du message chrétien pour leur propre fin. Et donc, Paul continue dans ce chapitre-ci à préparer, à former Timothée pour cette tâche. Et il met l'accent sur ce qui aura lieu, verset 1, lors des derniers jours, il dit. Lors des derniers jours. Il lui fournit, si vous le permettez, pour la métaphore de la météo, les prévisions à propos de ces derniers jours. Et donc, nous allons procéder, nous, en posant un certain nombre de questions sous cet angle de la météo. Et voici donc la première question. Vous voyez cela, je pense, à l'écran. Quelle période est concernée? Quelle période est concernée lorsqu'on parle des derniers jours? Quand auront lieu ces derniers jours dont parle l'apôtre Paul ici? Alors, les derniers jours ont déjà commencé parce que Paul écrit à Timothée. Et Paul peut dire à Timothée, verset 5, « Éloigne-toi de ces gens-là. » Les gens donc, de cette période des derniers jours, ils sont déjà à l'époque de Paul et Timothée. Et donc Paul ne parle pas d'une époque lointaine encore à venir où tout tournera mal. Les jours, si vous voulez, qui précéderont la fin. Non. Les derniers jours, c'est le moyen biblique de dénoter toute la période entre la première venue de Jésus-Christ, son incarnation, sa mort, sa résurrection, et sa deuxième venue en gloire. Une autre référence biblique pour nous aider avec cela, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Verset 1, qui va dans ce même sens. Dieu, on le découvre dans l'Épître aux Hébreux, dans ces jours qui sont les derniers, ils disent, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Il s'agit, voyez-vous, des derniers jours, car la première venue de Jésus a déclenché une nouvelle époque, l'époque de la révélation de Dieu à travers le Fils, Jésus-Christ. Et nous sommes encore dans cette époque-là, cette époque pendant laquelle nous répandons la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Et cette époque qui prendra fin lors du retour de Jésus-Christ. Car à ce moment-là, nous verrons Dieu face à face dans toute sa gloire. Mais aujourd'hui encore, nous nous approchons de Dieu, le Dieu invisible que nous ne voyons pas encore, qui prépare ce royaume, qui est encore à venir, où tout sera renouvelé. Nous nous tournons donc autour de ce que Dieu nous a révélé dans cette époque, après l'incarnation, lors de la première venue de Jésus. Et le Nouveau Testament, c'est le récit de cette révélation du Fils. Nous ouvrons donc encore le Nouveau Testament lors de nos cultes, 2000 ans plus tard, car nous sommes toujours dans cette période. C'est ça ce qui donne autorité dans l'Église, la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures. Donc les derniers jours, nous y sommes, encore des prévisions pour cette période dont parle Paul ici à Timothée, sont également donc des prévisions pour notre période. Alors la deuxième question, quel temps fera-t-il? Quel temps fera-t-il? Samedi, il y a 8 jours, Voici ce qu'ils avaient dit sur Internet par rapport à la Belgique. Coup de tonnerre, forte rafale de vent, pluie. Et si je consulte aujourd'hui l'appli de l'IRM aujourd'hui, je suis dans la joie de vous dire, pour ceux qui veulent insister plus tard à l'extérieur, que nous sommes au-dessus de 20 degrés. Une prévision plutôt bonne. Quel temps fera-t-il? Il fera beau. Mais l'application, si vous voulez, pour la santé morale dans la société, lors des derniers jours, nous indique quoi? Bah, que c'est plutôt négatif le temps, n'est-ce pas? Verset 1, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Non pas pour dire qu'il n'y a plus jamais des jours ensoleillés, mais que les tendances que nous voyons dans ces prévisions seront encore sur le menu pour chacun d'entre nous. Ensuite, dans les versets que nous avons sous les yeux, entre verset 2 et le verset 4, il y a une liste de 18 vices qui couvrent dans un sens toute la gamme du comportement qui caractérise l'homme qui cherche son plaisir et sa raison d'être, non pas en celui qui l'a créé, qui lui a tout donné, mais plutôt dans les choses que ce Créateur a créées, que ce Créateur nous a données. C'est un portrait ici dans ces versets assez sombre de l'homme, mais combien important. Alors, il ne faut pas que Timothée, lui, dans son ministère, soit naïf quant à la nature humaine. Il ne faut pas que nous soyons naïfs à propos de nous-mêmes. La liste, donc, au verset 2, commence avec deux mots qui ont le préfixe « phil » en grec. Ça, on ne le voit pas dans notre traduction. Mais nous avons également le même phénomène en français. On pense au prénom Philippe. Peut-être que vous appelez Philippe et vous regardez ceci. Bah, vous allez, j'imagine, savoir que votre prénom est une combinaison de deux mots. Le mot pour aimer, philéo en grec, et le mot pour cheval, hippos. Et donc, Philippe signifie quelqu'un qui aime des chevaux. Vous voyez ça? Même chose alors peut-être pour la ville aux États-Unis, la Philadelphie, même phénomène. C'est le deuxième nom là, c'est Adelphos, qui signifie en grec frère. Et donc nous avons affaire à la Philadelphie, à une ville d'amour fraternel. Donc voilà. Ici, le premier mot, c'est phil, pour aimer, autos. Donc, c'est cela signifie celui qui aime, alors ce n'est pas autos dans le sens d'un auto, non, pas une voiture, mais qui aime soi, lui-même. D'où vient la traduction que nous avons, égoïste. Égoïste, qu'il aime au-dessus de tout, c'est lui-même. Il se met au centre de notre monde. Plutôt que de mettre Dieu au centre de ce monde. Ensuite, le mot qui suit, c'est philaguros. Philaguros, celui qui aime l'argent. Ami, donc, de l'argent. Et la liste termine au verset 4, encore avec deux combinaisons, avec phil quelque chose. Philedonos, ami du plaisir, plutôt que Philothéos, ami de Dieu. Ce n'est pas un accident que la liste commence avec ces deux fils et termine avec ces deux fils. Pourquoi? Parce que cela met l'accent sur qui et quoi contrôle l'être humain. C'est notre cœur qui contrôle. Ce que nous aimons contrôle dicte notre comportement. Si nous aimons l'argent, parce que désirons ce que l'argent peut nous apporter dans ce monde, alors l'objectif de gagner de l'argent sera numéro un sur notre liste. Si nous nous aimons nous-mêmes, bah cela signifie forcément que nous brisons les deux premiers commandements, les deux commandements les plus grands selon Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Aimer le plaisir plutôt qu'aimer Dieu, c'est de d'élever le ressenti temporel, le divertissement, le confort au-dessus de ce que Dieu nous promet dans sa parole. Alors, entre ces deux paires, deux mots, chacun qui commence avec « fille », il y a 14 autres mots employés par l'apôtre Paul. D'abord, deux mots qui désignent un comportement abusif, blasphémateur, mais ici, c'est plus que juste abusif par rapport à Dieu. C'est abusif par rapport à tout. Et donc, pas de surprise de voir accompagné de cela, rebelle à leurs parents. Apprendre à se rebeller dans le foyer, c'est apprendre à être rebelle à toute autorité. Vous savez cela. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a ensuite tout un tas de mots qui commencent avec le préfixe qui indique le négatif en grec, souvent traduit en français avec un « un »,« in »,« ingrat »,« impie »,« insensible »,« implacable », mais aussi en « cruel », et ennemi de bien, ça ne marche pas ça en français. Nous ne pouvons pas décortiquer, chers amis, chaque mot ici. C'est un portrait du monde déchu dans lequel nous vivons. Bon, peut-être que vous voyez cette liste et vous pouvez poser la question, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce comme ça notre société? Alors, tirez de manière un peu aléatoire par rapport aux actualités ces dernières semaines. Voici quatre exemples qui démontrent que oui, l'homme est comme nous le voyons ici dans ce verset. D'abord, l'exemple dit l'Iran. L'Iran par rapport à la nation d'Israël. À la télé iranienne, début de ce mois-ci, par rapport aux événements à Gaza, l'ayatollah d'Iran, Ali Khamenei, disait ceci. L'État d'Israël n'est pas un pays, mais une base terroriste. Et il a prédisait une nouvelle fois la chute, selon lui, inéluctable du régime sioniste ennemi. Combattre ce régime despotique, c'est se battre contre l'oppression et le terrorisme. C'est le devoir de chacun, disait-il. Implacable, cruel, ennemi du bien. Deuxième exemple. Il y a 15 jours, la Cour suprême des États-Unis a accepté de se pencher sur l'arrêt Roe contre Wade de 1973, qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Cela à la demande du Mississippi qui souhaite rétablir une loi d'État soutenue par les républicains interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse. Savez-vous qu'en moyenne, 3000 êtres humains par jour sont avortés aux États-Unis? Dans le monde, environ 38 millions d'avortements ont lieu par an. Oui, je comprends qu'il y a des cas parfois très difficiles, mais la plupart de ces cas ne sont même pas difficiles. Insensible, dit cette liste. Violent. Troisième exemple. Hier, j'ai lu un article dans l'RTBF à propos d'Instagram et l'influence d'Instagram sur nos adolescents dans notre société. dans un nouveau roman qui vient de sortir, Instagrammable, il y a une femme, Elliot Abacassis, qui décrit de façon inédite une génération née au début des années 2000. En proie à la dépendance et à la violence induite par les réseaux sociaux, Instagram, disait-elle dans ce reportage, a apporté un vrai tournant dans nos vies quotidiennes. On est tous un peu accroc à ce réseau. J'ai eu envie d'écrire parce que j'ai vu mes enfants basculer dans ce réseau. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression de les perdre. Il est arrivé à un moment où je n'arrivais même plus à comprendre le langage. Je me suis rendu compte que le comportement s'est calqué sur celui des influenceurs. Certains auront l'impression de n'être jamais aussi heureux que les personnes qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est d'autant plus interpellant quand on crée des clivages entre ceux qui postent et ceux qui n'osent plus poster de peur de ne pas avoir assez de likes. Là où ça devient épouvantable, c'est quand on voit ces faits divers de harcèlement. Les filles n'osent plus se montrer et peuvent aller jusqu'au suicide. Les ados, disait-elle, sont victimes d'une véritable addiction. Ils mangent le portable sur les genoux. Leur enlever les réseaux sociaux, c'est comme leur enlever la drogue. Ce n'est pas simple, disait-elle, mais c'est extrêmement nécessaire. Oui, c'est jamais noir et blanc. Oui, nous devons aussi voir le côté bénédiction des réseaux sociaux. Mais ne voyons pas des tendances d'égoïsme, vantardisme, rebelles à leurs parents, ingrats, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Quatrième exemple. L'accident de téléphérique dans le Piémont en Italie, peut-être vous l'avez vu cela il y a une semaine. Il y a une rupture d'un câble sur la partie plus haute du parcours. Et la cabine a fait une chute d'une quinzaine de mètres, puis a dévalé une partie de la pente avant de s'écraser contre un arbre. 14 personnes sont mortes. Le téléphérique sortait d'une longue léthargie du confinement. Et dès l'ouverture, ils avaient remarqué, d'après un reportage dans l'RTBF, un problème existait au niveau d'une des cabines. Le système de freinage ne fonctionnait pas bien et empêchait même le freinage d'urgence. Le dirigeant de la société, le directeur du téléphérique et le chef opérationnel sont accusés, tous les trois, d'homicide involontaire. Selon la procédure, ils savaient que la cabine du téléphérique circulait sans train d'urgence depuis le 26 avril, jour de la réouverture de l'installation. Pour éviter l'interruption de la liaison, ils ont choisi de laisser en place la fourchette qui empêche l'entrée en fonction du frein d'urgence. Par conséquent, le système d'urgence n'a pas pu être activé. Les responsables savaient qu'il existait un problème, mais ils ont préféré le nier plutôt que de fermer l'installation. Estimant qu'une rupture de câble ne pourrait jamais se produire, le risque a été pris de désactiver le système. Ils auraient dû tout fermer et procéder aux réparations. C'était un choix conscient dicté par des raisons économiques, disait cet article. Ils ont admis la responsabilité. Amis de l'argent, sans maîtrise de soi. Voici donc quatre exemples qui m'ont frappé tout récemment. On aurait pu trouver énormément d'autres exemples. Et des exemples, n'est-ce pas, plus personnels, plus proches de nous. Parce qu'il n'y a pas de grande surprise que nous devons lutter contre de telles tendances dans notre société. Car nous vivons dans un monde de déchets. Un monde où l'ego de l'homme reste sur le devant de la scène. Depuis que Satan a tenté Adam et Ève de douter de la bonté de Dieu, hein, à goûter pour eux-mêmes la soi-disant liberté que Satan leur offrait, l'homme continue à douter que Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur. L'homme se trompe, l'homme est aveugle par rapport à la bonté de Dieu. Cette liste ne dit pas que tous les hommes, à tout moment, sont aussi mauvais qu'ils pourraient l'être. Non. Dans ce que nous appelons la grâce commune de Dieu, Dieu permet encore de bonnes choses de la part des personnes déchues. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons donc apprécier, peut-être vous l'avez apprécié, les prestations des finalistes du concours Reine Elisabeth et dire, wow, quelle magnifique musique au piano. Nous pouvons, au temps de COVID, apprécier l'effort sacrificiel de notre corps médical. Personne, voyez-vous, ne touche le fond de sa noirceur potentielle. Même Staline, lui, avait une belle appréciation de son jardin des plantes. Il peut aussi avoir des moments dans l'histoire où Dieu, dans sa grâce, ouvre le cœur de suffisamment de personnes pour voir des changements réels et concrets dans une société où tout ne tourne pas mal, mais où toute une culture est influencée pour le bien. Il suffit de penser à des réveils du passé dans certains coins, dans ce monde, même ici en Occident, où il faut penser à certains coins du monde aujourd'hui, en Asie, en Amérique du Sud. L'avance de l'Évangile est assez prononcée. Mais ils ne sont pas naïfs. Car dans les derniers jours, il fait quel temps? Il fait généralement mauvais, des temps difficiles. Alors, troisième question pour nous, par rapport à cette météo morale. Y a-t-il des avertissements? Y a-t-il des avertissements? Sur mon appli de l'IRM, il y a de temps à autre des avertissements particuliers pour la commune ou pour la région dans laquelle on vit, que non seulement la météo ne sera pas bonne, mais que je dois faire particulièrement attention, moi. Alors, y a-t-il des avertissements particuliers ici, selon Paul? Oui, car pas de surprise, si l'Église de Jésus-Christ vit pendant ces derniers jours, elle sera également exposée aux tendances que nous observons dans le monde, c'est certain. Les vices mentionnés au verset 4, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que Dieu, anticipent ce que Paul dit au verset 5. Ils garderont, ces personnes-là, la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Oui, nous devons nous attendre également à voir ces traits apparaître de temps à autre en notre sein, en l'Église de Christ. Car selon Jésus, nous rappelons-nous de ses propos, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je me déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils gardent donc la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Je pense cette dernière année à un apologète mondialement reconnu et respecté, Ravi Zacharias, révélé après sa mort comme étant un auteur de sévices sexuels auprès, entre autres, des masseuses, des femmes vulnérables, car elles étaient employées dans des salons de massage dont il était le copropriétaire. Ce n'est pas aussi loin ça du verset 6, n'est-ce pas? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des esservelés chargés de péchés et agité par toutes sortes de désirs, de manipulation, profite de la faiblesse et de la culpabilité de certaines personnes. Oui, dans l'Église, nous avons toujours affaire à ceux et celles qui se servent de la foi chrétienne pour poursuivre leurs propres objectifs. Des traîtres, selon le verset 4, car souvent ils commencent de manière légitime, on voit peut-être un peu de fruits dans leur vie, mais avec le temps, ils se détournent de cette conviction chrétienne. Ils ne portent plus de fruits. De telles personnes sont souvent aveuglées par l'orgueil. Ils sont parfois fiers de trouver une foi chrétienne qui cadre mieux avec ce que la société aujourd'hui pense. La société aujourd'hui met en avant la sexualité, expression libre. Alors, de telles personnes disent, mais vous voyez, je suis en phase avec la société actuelle. Ils sont parfois fiers d'affirmer qu'ils trouvent une expression de la foi qui cadre avec ce qu'ils ressentent. Que cela implique l'activité sexuelle en dehors du cadre d'un mariage hétérosexuel. Que cela implique le divorce parce que je ne veux plus. Que cela implique le reniement de la croix de Jésus-Christ comme étant une punition de la part de Dieu qui déverse sa colère sainte sur toute impiété. Oh non, c'est pas la mode de parler de colère, donc je rejetterai cette façon de considérer la croix. Mais c'est très de mettre en avant le plaisir plutôt que la vérité. Le plaisir défini selon les critères de chaque individu sont également présents de manière plus générale parmi nous. Lorsque quelqu'un vous demande « C'était comment pour vous l'Église ce matin ?» Sur quelle base allez-vous répondre à cette question-là ? Si votre réflexion c'est « Bon, est-ce que j'ai aimé aujourd'hui le culte ?» Plutôt que « Est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui au culte ?» Cela est un indicateur que mon évaluation tourne autour de mon ressenti, mon plaisir, plutôt qu'autour de la vérité. Et cela doit nous mettre en garde, chers amis, de ne pas, comme sur Instagram, être aveuglé par nos ressentis du moment, d'être aveuglé par la louange, ou l'ambiance, ou l'amour fraternel, le feeling qu'il y a, plutôt que d'être énervé par la grâce de Dieu envers nous, en Christ. Que doit faire Timothée face à cette tendance? Fin du verset 5. Éloigne-toi de ces gens-là. Quand ces personnes jettent du discrédit sur le Christ, sur son Église, à juste titre, ils jettent du discrédit. Car le message de Christ est un message de transformation du cœur humain, de régénération par l'Esprit Saint de Dieu. Il faut être né de nouveau, disait Jésus à Nicodème. Dans tout témoignage qui ne fait pas preuve d'une transformation réelle, mine la confiance que nous pouvons avoir dans ce Dieu que nous adorons. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, mes amis, sans péché, en un loin de là. Mais c'est que l'œuvre de Dieu est néanmoins authentique, se voit par le fruit dans notre vie. Évitons donc ceux et celles qui ne font pas preuve de cette authenticité. À ce stade, verset 8, Paul, si vous voulez, sort, et donc quatrième remarque, un ancien reportage qui prouve que la météo n'a jamais été bonne. Oui, cela arrive, n'est-ce pas, qu'on sort à la télé un extrait d'un reportage du passé pour nous rappeler que ce n'est pas inconnu ce que nous vivons comme météo aujourd'hui. C'est ça ce qui se passe au verset 8. Paul fait référence à Jannès et Jambres, les prénoms selon la tradition juive et chrétienne des magiciens égyptiens à l'époque de où Moïse se rendait en Égypte pour exiger, pour demander à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu. Vous pouvez trouver le reportage de ces magiciens dans les chapitres 7 à 9 du livre d'Exode. Bon, ils se sont aussi opposés à Moïse, tout comme dans les derniers jours, d'autres s'opposeront à la vérité. Ils avaient, oui, une certaine puissance, il faut le reconnaître. Ils arrivaient à reproduire un certain nombre de miracles également, mais ils n'avaient pas de respect pour l'Éternel, pour la vérité. Ils n'avaient pas, fin du verset 7, une connaissance de la vérité. Ils reniaient la vraie puissance de la foi. Ce sont donc des exemples, des personnes à éviter, des personnes qui impressionnent jusqu'à un certain point, point de vue externe, point de vue religieux, mais qui renient la vraie puissance de l'Évangile. Et leur exemple nous renvoie vers ce dernier point que nous avons, les prévisions à long terme. Quelles sont les prévisions à long terme? Il s'agit des prévisions, voyons-nous, pour de telles personnes, des prévisions mauvaises. Car verset 9, ultimement, nous ne ferons plus de progrès, car la stupidité sera évidente pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, nous dit le texte. Oui, plus tard, dans le récit d'Exode, ces charlatans sont exposés en tant que tels, impuissants, réduits à rien face au Dieu de la Bible. Ce n'est jamais, voyez-vous, une bonne idée de s'opposer à Dieu, le Dieu de la Bible. Car vous ne gagnerez pas. J'espère que vous savez cela vous-même. Oui, cela pourrait apparaître intéressant de poursuivre d'autres pistes que la vérité révélée en Jésus-Christ. Être un ami du plaisir plutôt que de Dieu. Mais c'est voué à l'échec, ces pistes. Même si pendant un temps vous avez vos adeptes pendant un temps, les autres sont aveugles à ce que vous faites pour du vrai, même si cela semble réussir, même si vous arrivez à duper les autres, ultimement, que cela soit plus tard dans votre ministère, que cela soit après la mort, comme cela fut le cas pour Rabbi Zacharias, que cela soit lors du jugement final, ta stupidité de t'opposer à Dieu. Tu te crois capable de te servir de Dieu sera révélé. Donc ne faites pas cela, les amis. Alors, on a un mot de conclusion. Parce que je pense qu'il y a un danger pour le croyant de se décourager en lisant ces versets. C'est négatif, n'est-ce pas, ce qui aura lieu dans les derniers jours. Mais ces versets sont là pour nous équiper, pour que nous tenions ferme lorsque de telles choses arrivent. De ne pas nous détourner de la bonne voie. Cette voie, c'est la voie de la grâce de Dieu révélée en Christ. Si vous permettez, je vais vous lire juste deux versets de Tite. Tite, qui lui a aussi connu à Crète un contexte de société difficile. Il dit, verset 3 du chapitre 3, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux. Nous nous détestions les uns les autres. » Et ensuite, que dit-il? Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Voici la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la vérité de Dieu. Et c'est cette grâce, le chapitre 2 de Tite, versets 11 et 12, qui nous dit, elle nous apprend à nier l'impiété et les désirs de ce monde. Si nous ne voulons pas être des amis du plaisir, alors nous devons être des amis de Dieu. Amis parce que notre cœur a été captivé par la bonté et la grâce de Dieu. Paul veut que Timothée poursuive un ministère de ce genre-là. Et de comprendre qu'un ministère dans un contexte dans lequel nous vivons dans les derniers jours ne sera pas toujours facile. Il y aura, oui, de l'opposition. Comment contrer cela dans notre ministère? Alors revenez encore la semaine prochaine. Parce qu'on va voir les recommandations positives qui donnent intimité dans la suite de ce chapitre 3. Mais sache que si c'est la grâce qui nous apprend à vivre autrement, il faut mettre l'accent là-dessus pour que le changement de notre cœur soit authentique. Prions, les amis. Oui, Seigneur, nous voulons te louer que ta grâce nous enseigne à renier un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Et nous te prions, Seigneur, que nous soyons avertis par ces derniers temps, mais nous ne soyons pas naïfs par rapport à ce que c'est de vivre dans ces derniers jours. Équipe-nous, Seigneur, et donne-nous de vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors,